Aujourd'hui dans Game of Earth, on continue notre découverte de la théologie queer en nous intéressant aux stratégies visant à rendre la lecture de la Bible, disons, un peu plus queer-friendly. Ce type de travaux théologiques tendent plus vers une compréhension du terme queer comme étant un synonyme plus court et plus inclusif de l'acronyme LGBTQIA+. Le terme queer rassemblerait alors les minorités de genre, de sexe et de sexualité sous la vaste ombrelle d'une même identité. Si vous avez regardé la première vidéo de cette série, vous savez que la théorie queer, qui a inspiré une partie de la théologie queer, n'est pas favorable à l'usage du terme queer comme d'une identité politique. Pour la théorie queer, la tâche associée à ce terme est jugée bien plus vaste que la seule lutte pour la reconnaissance et l'inclusion des minorités de sexe, de genre et de sexualité. Il s'agit pour elle de critiquer la notion d'identité, de montrer sa non-naturalité en observant ce qui la perturbe, c'est-à-dire la subversion queer, et ainsi de pouvoir dénoncer la notion d'identité comme étant un outil de domination. Si ce que je viens de dire vous semble obscur et que vous avez besoin de détails sur les ambitions de la théologie queer, s'il vous plaît, regardez la précédente vidéo. En tenant compte de ce que fait la théorie critique queer, certains commentateurs et certaines commentatrices de la théologie queer relèguent parfois les stratégies de lecture, d'interprétation et de prêche pour les personnes queer et contre l'hégémonie hétérosexuelle cisgenre hors de la sphère de la théologie queer et préfèrent les catégoriser comme appartenant plutôt aux théologies gays et lesbiennes. C'est notamment le cas de la théoricienne Marilyn Tonstadt dans son ouvrage Queer Theology, Tonstadt qui parle de stratégies apologétiques, c'est-à-dire de travaux qui visent à défendre la légitimité de la présence des minorités sexuelles au sein des églises. Mais la frontière entre ces divers courants théologiques est très difficile à placer, et pour ma part, j'ai tendance à dire que ce sont des stratégies qui ont tout à fait leur place au sein de la théologie queer. Il me semble que les décrire comme simplement apologétiques est réduire leur ambition, la nature de leurs gestes. En effet, les travaux que je vais vous présenter dans cette vidéo interrogent les interprétations des textes bibliques utilisés comme argument pour condamner l'homosexualité. Ils cherchent dans les textes bibliques des transêtres, des proto-gays et des proto-lesbiennes, proposent des enseignements à partir des récits bibliques de telle sorte qu'ils parlent intimement des vies queer, ou encore investissent l'écriture créative. Il me semble que tout cela consiste, ainsi qu'entend le faire la théorie queer, à remettre en question les interprétations traditionnelles et à montrer ce qui, dans les textes, est susceptible de perturber, de dénaturaliser les normes, en l'occurrence les normes de sexe, de genre et de sexualité. C'est peut-être moins radical que d'autres gestes intellectuels, mais ça n'en est pas moins une démarche critique importante et nécessaire.
Message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur les plateformes de dons.
Toute la Bible est un texte de terreur parce que les abus qu'on nous a fait subir ont été légitimés par les interprétations erronées de quelques passages obscurs. Nous pensons que le point de repère d'une lecture queer des Écritures est la notion que la Bible est notre amie. Lorsque nous abordons la Bible comme un texte qui nous est amical, comme un texte qui ne nuit pas, la terreur des Écritures prend la forme de la parole de Dieu, source de vie.
Une des premières tâches de la théologie queer consiste à réinterpréter les textes bibliques classiquement utilisés par les autorités ecclésiastiques ou par les fidèles pour justifier et entretenir la discrimination et la maltraitance des minorités de sexe, de genre et de sexualité. Concrètement, il y a deux petits corpus de textes qui sont brandis à cet usage. Le premier corpus rassemble les textes compris comme évoquant et interdisant d'un même geste des pratiques sexuelles entre personnes de même sexe. Sodome et Gomorre dans la Genèse, Lévitique 18, verset 22, la lettre de Paul aux Romains 1, verset 26-27, ou encore la lettre de Paul aux Corinthiens 1, verset 6-9. Ces textes sont utilisés pour condamner les relations romantiques et ou sexuelles entre personnes de même sexe, selon tous les degrés de ce que peut vouloir dire condamner. Tous les degrés étant, bien évidemment, foncièrement homophobes. Le second corpus rassemble les textes compris comme affirmant la création divine d'une binarité sexuelle stricte, comme par exemple Genèse 1, verset 27, utilisé pour stigmatiser les personnes intersexes, trans et non-binaires, pour condamner les expressions de genre ambiguës ou le travestissement. Ce corpus inclut aussi des textes compris comme prohibant toute opération chirurgicale des parties génitales, comme par exemple Deutéronome 22, verset 5, utilisé pour condamner les personnes trans et refuser leur transition.
De nombreux commentaires de ces textes ont été produits en théologie queer.
Ils visent à montrer que ces interprétations ont été maintenues non pas à cause de leur justesse et de leur subtilité, mais parce qu'elles servent un agenda queerphobe. D'autres interprétations sont possibles, il s'agit simplement de les faire. L'ouvrage de Queer Bible Commentary, notamment, offre une critique des interprétations traditionnelles queerphobes et propose d'autres lectures de ces textes de terreur. Je vous propose, en guise d'exemple de critique de la tradition interprétative et en guise de réinterprétation queer d'un texte biblique, de nous pencher sur le chapitre 19 de la Genèse, qui narre l'histoire de Lot et de la ville de Sodome. Ce chapitre de la Genèse est probablement le plus connu des textes servant à condamner, avec appui biblique, l'homosexualité masculine. Si célèbre qu'il a donné son nom à la pratique sexuelle de la pénétration anale, la sodomie. Pour vous résumer cet épisode en quelques phrases, l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorre, c'est celle de Lot, un père de famille qui vit dans la ville de Sodome, quelque part au sud de la mer Morte. Un jour, deux anges passent dans la cité. Lot les voit et les invite à dîner et à passer la nuit avant de reprendre la route. Mais les habitants de Sodome se pointent et disent « Oui, les deux gus de passage, là, tu nous les envoies, on va les connaître ». Si vous n'êtes pas familier ou familière avec le terme biblique « connaître », connaître veut dire « avoir des relations sexuelles ». Lot n'est pas d'accord, il veut protéger ses invités, et il propose d'envoyer ses filles à la place des anges. Mais les habitants de la ville sont bien remontés. Ils décident que finalement, ils veulent casser la gueule de Lot, parce que de toute façon, c'est un étranger, et qu'il a un peu trop tendance à faire la leçon à ses voisins. Les deux anges attrapent Lot par le col et le font rentrer, ferment la porte de la maison et lui disent « Écoute, t'as été bien bon avec nous, tu prends ta famille et tu te barres de Sodome, parce que maintenant, Dieu n'est pas content, et il va cramer toute la région. » Lot s'en va avec ses filles, et Dieu détruit Sodome à coups de boules de feu. Que retenir de ce récit ? La tradition interprétative homophobe, elle, en conclut « Dieu punit les homosexuels » ou encore « Le sexe anal, c'est mal ». Si ce n'est même encore, ceux qui défendent les queers crameront avec eux. Pourtant, précise Michael Carden dans le chapitre sur la genèse de The Queer Bible Commentary,
ce mythe chrétien d'une divinité homophobe est né au 3e siècle de notre ère, mais plusieurs siècles se sont écoulés avant qu'il ne devienne l'interprétation dominante. C'est le 11e siècle de l'Occident médiéval qui a vu cette interprétation se fixer lorsque Peter Damian a inventé le terme de sodomia. C'est suite à cela que la sodomie commencera à désigner un état et l'expression d'un désir entre personnes de même sexe qui prend la qualité d'un état de nature ou, plus exactement, d'un état contre nature. Le sodomite, cette espèce humaine qui s'adonne à la sodomie, devient une créature en rébellion contre Dieu et l'ordre naturel qu'il a instauré.
L'interprétation homophobe est donc bien une interprétation qui s'est figée dans le temps, qui est devenue dominante et qui a servi et sert encore pour justifier la régulation des mœurs. Apparaît également, dans cet extrait du commentaire de Carden, la critique de la production d'une identité, la figure du sodomite, qui sert de levier de stigmatisation et de répression. Une première étape consiste à ne pas confondre cette interprétation homophobe avec le texte biblique lui-même. Une seconde étape est de discuter la pertinence de cette interprétation, voire d'en fournir une nouvelle qui ne soit pas un brûlot queerphobe.
Et, à vrai dire, pas besoin d'être très inventif, puisque Carden note en premier lieu que la tradition interprétative juive a compris bien autre chose de la destruction de Sodome.
Pour cette tradition interprétative, la destruction de Sodome n'a rien à voir avec une question d'attirance sexuelle, et moins encore de condamnation des homosexuels. Ce que Dieu punit ici, c'est l'hostilité envers les étrangers et la cruauté envers les pauvres. Car c'est le refus de l'accueil d'autrui qui s'exprime ici à travers la violence de la menace d'une agression sexuelle.
Carden justifie la pertinence de cette interprétation en la mettant en lien avec un second récit biblique issu du Lévitique, où cette fois-ci le viol a bien lieu, sauf que cette fois-ci c'est une femme qui en fait les frais, et elle meurt à la suite de cette agression. L'interprétation de Carden se poursuit ainsi.
La tradition interprétative juive s'est, pour beaucoup, accordée sur le fait que Lot n'est pas tout blanc dans cette histoire, même si Dieu épargne sa vie. Si Lot refuse de livrer les anges aux habitants de Sodome et propose à la place ses propres filles, c'est parce qu'il adhère aux lois misogynes de la ville. En effet, l'idée derrière le viol des anges, c'est de les féminiser, en leur faisant prendre la place du pénétré dans l'acte sexuel. Lot essaie ainsi de protéger la masculinité des anges, parce que se voir attribuer la féminité est une insulte et une manœuvre de domination.
Ainsi, Dieu détruit la ville de Sodome non pas pour ses mœurs homosexuelles, mais pour sa misogynie qui s'exprime à travers la volonté de dénigrer des hommes en les violant. Carden fait même un pas supplémentaire dans son interprétation.
Ce récit montre également que la misogynie qui prévaut à Sodome et Gomorre repose sur la violence homophobe. La menace de viol envers les anges est une tentative de marquer les étrangers comme n'étant pas de vrais hommes, mais comme étant par conséquent des queers. Mais en tentant de marquer les étrangers comme étant des queers, les habitants de Sodome tentent également de marquer les queers comme étant des étrangers. Ainsi, ce qu'ils déclarent réellement, c'est que tous les habitants de l'état de Sodome sont hétérosexuels.
Pour résumer, selon l'interprétation de Carden, l'histoire de Sodome et Gomorre, c'est l'histoire de la punition divine des hétérosexuels misogynes qui brillent par leur queerphobie et leur xénophobie. Une seconde tactique d'investissement des textes sacrés pour les rendre plus amicaux aux minorités de sexe consiste à lire la Bible en étant attentif et attentive aux figures queer, c'est-à-dire aux personnages susceptibles d'être désignés comme ayant un genre, un sexe ou une sexualité sortant des normes hétérosexuelles cisgenres et venant ainsi les perturber, remettre en cause leur hégémonie. Ce sont autant de personnages qui peuvent parler aux queers contemporains, ne serait-ce que par leur simple existence dans les textes bibliques, pour se sentir représentés et inclus dans les écritures qui fondent leur spiritualité. Évidemment, une critique de cette recherche de proto-queer biblique est la suivante. Le concept d'identité sexuelle appartient à l'histoire moderne et contemporaine. Aussi, chercher des gays, des lesbiennes, des bi, des personnes trans, etc. dans la Bible ne sert à rien. Il n'y en avait pas, pas du tout, et il est vain d'y projeter nos catégories artificiellement. Ce serait se rendre coupable de cuisants anachronismes. Mais la théologie queer qui cherche des proto-queers dans la Bible est largement consciente de l'inexistence de ces catégories à l'époque de la rédaction des Écritures. Pour le théologien Martin Hugo Cordova-Quero,
queeriser le passé ne consiste pas à transplanter des gays, des lesbiennes, des bisexuels ou des personnes trans dans le passé, mais à perturber les discours monolithiques qui oppressent des périodes historiques.
La théologie queer ne cherche pas à dire qu'il existait bel et bien et très précisément des gays dans les récits bibliques, mais à montrer que certains personnages transgressent l'ordre sexuel que la théologie traditionnelle pense être l'alpha et l'oméga du récit biblique. Ainsi, l'interprétation traditionnelle de la Bible ne perçoit dans les Écritures qu'une injonction univoque à la norme hétérosexuelle. Et la théologie queer s'attache à montrer que c'est plus compliqué que cela. En témoigne, notamment, la présence de personnages dont les comportements échappent à cette norme et contestent son hégémonie. Encore faut-il remarquer cette perturbation de la norme, et c'est à cela que s'attelle la théologie queer dans l'espoir de retirer au discours théologique ses lunettes hétéro-cis-sexistes. Donc, si la théologie queer fait émerger des figures bibliques queer, elle prend acte de leur incommensurabilité avec nos catégories contemporaines. Mais elle ne renonce pas à tirer un lien entre ces queers du passé et ceux du présent. Il y a une filiation de la transgression de l'ordre sexuel. Enfin, précisons ceci en guise de parallèle éclairant, si nos hétérosexuels contemporains tirent du couple d'Adam et Ève et de tant d'autres couples bibliques de quoi penser leur propre trajectoire de vie, on leur reproche rarement un méfait d'anachronisme en leur disant « Mais à l'époque de l'écriture de la Bible, braves hétéros, l'hétérosexualité n'existait pas !» C'est vrai, l'hétérosexualité à proprement parler n'existait pas. C'est un concept moderne qui fonctionne par opposition au concept d'homosexuel. Pourtant, dans ces récits, des hommes et des femmes ont bel et bien été représentés comme ayant des relations sexuelles et maritales, et qui sait, peut-être même romantiques. Il semble donc intéressant d'étudier ces relations, que cela soit pour constater la différence entre ces proto-hétéros et les nôtres, ou pour s'interroger sur certaines similitudes. Au hasard, la domination patriarcale. Revenons à nos proto-queers bibliques. Les figures de la Bible les plus connues à cet égard sont peut-être David et Jonathan, dans le livre de Samuel. Il n'est pas directement question de rapport sexuel, mais d'une relation très forte entre deux hommes qui se prêtent serment avec une grande émotion, qui souhaitent ne plus jamais se quitter, quelle que soit la réprobation de leur entourage. Ce couple a inspiré le nom de l'association LGBT chrétienne David et Jonathan, fondée en 1972. Mais c'est sur un autre motif biblique queer que j'aimerais attirer votre attention. Ruth et Noémie, dans le livre de Ruth, sont un duo assez célèbre dans l'imagerie queer de l'Ancien Testament. On compte beaucoup d'interprétations lesbiennes des relations entre ces deux veuves qui, après le décès de leurs époux respectifs, choisissent de ne plus se séparer, malgré la nécessité, en contexte patriarcal, que la plus jeune d'entre elles se remarie. La pasteure Selena Duncan, dans son article « The Book of Ruth on Boundaries, Love and Truth », propose quant à elle d'y lire le récit de la vie d'une femme bisexuelle.
Tout d'abord, une amitié et un amour entre deux femmes, cette relation se développa jusqu'à inclure un homme digne et une communauté les approuvant, et permit la naissance d'un enfant qui deviendrait un lien important dans la généalogie de David et de Jésus.
Duncan souligne en effet, outre l'attachement entre Ruth et Noémie déclaré dans des vœux émouvants et une tendre affection, le rôle joué par un dénommé Boaz, l'homme avec lequel se remarie Ruth. En effet, pour la pasteur, on remarque, en étant attentif et attentif aux textes, que si Boaz fait partie des repreneurs susceptibles de s'approprier les terres de la veuve Ruth en l'épousant, ce n'est pas la fortune qui l'intéresse, mais Ruth elle-même et son bonheur. Il agit pour la protéger et protéger sa relation avec Noémie. Il encourage la communauté locale à bien accueillir ces deux femmes, il donne à Ruth l'occasion de se montrer digne de confiance, et lorsque Ruth vient le trouver au beau milieu d'une nuit pour lui demander de l'épouser et de les mettre à l'abri, elle et Noémie, il accepte, se fait discret et suit consciencieusement le protocole pour la racheter. Tous trois forment ensuite une famille particulière. En effet, le texte biblique précise que l'enfant né de l'union entre Ruth et Boaz devient l'enfant de Noémie.
Alors, Noémie prit l'enfant et le mit sur sa poitrine, et elle devint sa tutrice. Les voisines proclamèrent son nom, Ovède.
Pour Duncan, l'histoire de Ruth, Noémie et Boaz est l'histoire d'un couple de femmes, puis d'un couple mixte s'émancipant des structures sociales qui, sinon, limiteraient leur amour. Tous trois font face aux divisions ethniques. Ruth est une étrangère dans les contrées de Noémie et Boaz, à la différence d'âge. Noémie est la belle-mère de Ruth, une femme plus âgée et ménopausée, et elle défie les normes de genre, de sexualité et des agencements familiaux. Certes, le mariage entre Ruth et Boaz est conforme aux usages et met les deux femmes à l'abri des agressions qu'elles risqueraient si elles n'avaient pas de lien avec un homme. Mais pour Duncan, ce remariage est aimant et respecte la relation entre Ruth et Noémie. Duncan conclut que chercher à placer une étiquette sur cette relation risque d'en appauvrir le sens, et l'on retrouve ici, peut-être, la volonté queer d'indétermination, de refus des identités. Pour elle, l'histoire de Ruth, Noémie et Boaz est profondément bisexuelle, parce que, dit-elle,
« La bisexualité dépasse toutes les limites, car nous ne pouvons pas résister, au sens positif du terme, à l'attraction intellectuelle, spirituelle, émotionnelle et physique. Nous voyons Dieu dans l'autre, et là où Dieu se trouve, il y a du respect, de l'amour bienveillant et de la responsabilité mutuelle. »
Vous l'aurez probablement compris, Selena Duncan utilise le terme « bisexualité » en lui donnant une signification bien plus large que simplement « attirée sexuellement par les hommes et les femmes ». Son article est émaillé du récit de sa propre expérience de la bisexualité et de la façon dont celle-ci a exigé d'elle qu'elle transgresse l'ordre social, tant hétérosexuel qu'homosexuel. Ses épreuves multiples l'ont amenée à cette compréhension de la bisexualité comme un quasi-synonyme de queer, qui implique aussi des relations entre multiples partenaires et la composition d'une famille non traditionnelle. Elle insiste également sur le rôle nécessaire de la communauté qui, bien que réticente et sur ses gardes, n'en accepte pas moins très vite ces arrangements sociaux pourtant hors normes. Elle déplore en effet que, je cite, « le puissant message divin de la diversité des relations humaines, message qu'elle lit ici à travers l'histoire de Noémie, Ruth et Boaz, ne soit pas entendu par les croyants. »
On peut également noter que l'interprétation de Duncan est moins érudite que celle que donnait Cardenne du chapitre sur Sodome, qu'elle est construite à partir d'un registre plus personnel et libre.
Ce qui reste néanmoins commun aux deux textes, c'est le souhait de produire une interprétation de la Bible qui soit sensible à la subversion queer et qui peut ainsi se désaxer d'une implacable lecture hétérosexiste.
L'autre figure queer que je vous propose d'approfondir un peu est l'un des multiples eunuques qu'on trouve dans la Bible. Commençons par son histoire.
Dans le Nouveau Testament, au chapitre 8 des Actes des Apôtres, un court ensemble de versets, 26 à 40, narre la rencontre de l'apôtre Philippe, de retour d'une campagne de prédication en Samarie, avec un eunuque appartenant à la cour de la reine d'Éthiopie.
Pour les néophytes, les Actes des Apôtres, c'est le livre qui suit les évangiles et qui raconte ce que font les apôtres du Christ après la résurrection, en l'occurrence, aller parler de Jésus partout et à tout le monde.
L'apôtre Philippe, donc. L'ange qui guide Philippe dans son voyage lui indique une route à prendre qui est, selon ses dires, déserte. Sauf que cette route n'est en fait pas vide. C'est là que Philippe rencontre l'eunuque, qui est, quant à lui, de retour d'un pèlerinage à Jérusalem, et qui fait une pause, tranquillement installé à lire les Saintes Écritures. L'eunuque est un type enthousiaste et très pieux. Aussi demande-t-il à ce bon Philippe de l'aider à interpréter un passage du prophète Ésaïe. L'apôtre en profite pour continuer sa mission de prédication et propose à l'eunuque de comprendre dans ce passage l'histoire de la venue de Jésus. Que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité, enfin vous connaissez l'histoire quoi, et que c'est super cool pour les chrétiens, d'où l'intérêt de se convertir. Lorsqu'il passe près d'un point d'eau, l'eunuque demande à être baptisé, ce que lui accorde immédiatement Philippe.
Venons-en à nos moutons queer.
C'est la pasteur et chercheuse Mona West qui a commenté cet épisode des Actes des Apôtres dans The Queer Bible Commentary. Pour elle, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le premier non-juif, dans le jargon on appelle ça un gentil, le premier non-juif converti au christianisme fait partie d'une minorité sexuelle. C'est un individu auquel on a retiré les testicules, ce qui a des conséquences sur sa participation à l'ordre de genre, de sexe et de sexualité qui est propre à son époque. L'eunuque est d'ailleurs un gentil, précisément parce qu'il fait partie d'une minorité sexuelle. On apprend en effet, au chapitre 23, verset 2 du Deutéronome, qu'il est interdit aux eunuques de prendre part à la communauté religieuse d'Israël.
L'homme mutilé par écrasement des testicules et l'homme à la verge coupée n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur.
L'eunuque que rencontre Philippe est pourtant très pieux. Il revient d'un pèlerinage, il lit les Écritures et souhaite avoir un enseignant qui le guide dans cette lecture. Et Philippe de décider, guidé par l'ange qui l'a mené sur cette route, que même les exclus du judaïsme sont dignes de recevoir la bonne nouvelle de la résurrection et peuvent devenir chrétiens s'ils en font la demande. C'est le cas de l'eunuque des Actes des Apôtres. Seul importe le désir de faire partie de la communauté chrétienne. De manière générale, la figure minoritaire de l'eunuque, une personne aux caractéristiques sexuelles modifiées et au genre fluctuant, joue des rôles différents dans les interprétations queer de la Bible. Y elles sont tantôt associées aux personnes intersexes mutilées à la naissance, tantôt aux personnes trans auxquelles on refuse certains outils de transition ou qui sont rejetées du fait de leur transition. Pour autant, il reste clair que des analogies complètes et précises avec ces identités ne peuvent être faites. Les eunuques sont-ils aussi des ancêtres queer dont on perçoit bien la distance avec les catégories actuelles? L'interprétation qui peut cependant être retenue consiste en l'analogie globale proposée par Mona West.
Les personnes queer et croyantes peuvent lire ce récit comme étant le nôtre. Nous nous voyons refuser une participation pleine et entière à l'Église à cause de ce que l'on considère être notre statut sexuel marginal. Comme l'eunuque éthiopien, nous avons lutté pour comprendre les Écritures, pour y trouver notre place, alors que d'autres s'en servaient pour nous condamner. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il existe des Philippes qui ont interprété les Écritures de sorte à ce qu'elles empuissantent la communauté queer.
Ainsi, l'histoire de l'eunuque éthiopien peut jouer deux rôles, selon les interprétations queer de la Bible. Elle sert de preuve que le christianisme accueille par principe, sans restriction, les minorités sexuelles, celles et ceux que la société stigmatise et repousse dans les marges. Mais elle sert aussi de récit pour exemplifier une trajectoire queer au sein d'un christianisme qui ne respecte pas ses propres principes. Et alors, la figure de Philippe devient celle de la théologienne queer elle-même, qui par ses interprétations rend amicaux les textes bibliques, jusqu'à en faire des outils de résistance et de lutte contre l'oppression hétéro-cis-sexiste. Les textes de la terreur, tout comme les potentiels ancêtres queer, sont cependant une partie congrue des Écritures. Et aussi importantes ces explorations de théologie queer soient-elles, elles sont loin d'être les seules. En effet, précisent Robert Goss et Mona West dans l'introduction de l'ouvrage collectif Take Back the World, la théologie queer n'en reste pas à ces quelques versets, et elle étend son travail d'interrogation et de subversion à l'entièreté de la Bible. Tous les textes doivent parler aux vies queer, pouvoir résonner avec les parcours spirituels queer, qui sont souvent complexes, heurtés, minoritaires. Et elles introduisent par ces mots le recueil.
Cette anthologie entend proposer des exemples d'herméneutique biblique queer s'intéressant à l'ensemble de la Bible et de son message et non pas seulement à une sélection de quelques textes et personnages. Il s'agit là d'une stratégie qui vise à faire émerger la communauté queer en articulant son expérience vécue tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du placard avec ses préoccupations spécifiques lorsqu'elle se confronte au texte biblique et se l'approprie.
À cet égard, poursuivent Goss et West, le tournant herméneutique postmoderne nous a appris l'importance du rôle joué par la réception d'un texte, par ses lectrices, dans la compréhension et l'interprétation de ce texte. Et elles affirment ainsi.
Nous n'avons pas seulement compris que les lecteurs et les lectrices produisent le sens des textes, mais également qu'elles mènent leur moi spécifique jusqu'au texte, celui-ci étant façonné par une diversité de facteurs, comme la race, l'appartenance ethnique, le genre, la classe, la confession religieuse et, ajouterions-nous, l'orientation sexuelle. Les méthodes modernes, scientifiques et objectives n'ont pas été autre chose qu'une lecture provenant d'une situation privilégiée, américaine-européenne, mâle et hétérosexuelle.
Cela, nous avons déjà commencé à le comprendre avec la relecture des textes de terreur et avec les figures bibliques queer. La théologie traditionnelle est située, c'est-à-dire qu'elle est le produit d'un point de vue particulier, hétérosexuel et tout un toit. Pourtant, elle se déclare universelle, non située, et elle écrase ainsi toute autre interprétation, toute lecture des textes bibliques qui émanerait d'un autre point de vue. Le tournant herméneutique postmoderne, brisant cette illusion d'universalité, a permis l'émergence, pour Goss et West, de nouveaux points de vue qui renouvellent l'interprétation des textes sacrés en endossant ouvertement le caractère particulier de leur position. Aussi, la théologie queer assume-t-elle d'être le produit d'une communauté de lecteurs et de lectrices spécifiques, incarnée par une existence donnée, et qui laisse ostensiblement la trace de son point de vue dans les lectures qu'elle produit. Le point de vue de la communauté de lecteurs et lectrices queer a pour caractéristique d'être marqué par une oppression, par une stigmatisation et une marginalisation spécifique aux membres de sa communauté. Oppression qui est précisément justifiée via les interprétations dominantes des textes bibliques. C'est précisément à la lumière de cette oppression et de la façon dont elles y résistent que les communautés queer lisent les textes bibliques et se les approprient pour se les rendre libérateurs. Comment, alors, ces herméneutiques queer se manifestent-elles au-delà des textes de terreur et de quelques ancêtres queer ? En premier lieu, si les mentions bibliques de minorités sexuelles sont de rares paillettes, les écritures sont emplies de discours sur les relations conjugales, sexuelles et reproductives entre hommes et femmes. Ces textes, peut-être plus encore que ceux réprouvant ouvertement la sexualité entre personnes de même sexe, ont servi à stigmatiser les personnes queer à travers des injonctions à l'hétérosexualité reproductive monogame. Un des textes les plus utilisés dans cette vaste entreprise théologique de promotion de l'hétérosexualité reproductive est celui du double récit de la création de l'humanité dans le livre de la Genèse, chapitres 1 et 2, accompagné du non moins célèbre texte de la désobéissance d'Adam et Ève au chapitre 3. Le bibliste Ken Stone, dans son article « The Garden of Eden and the Heterosexual Contract », tout en faisant une brève revue des interprétations traditionnelles et des interprétations féministes de ces quelques versets, en propose une lecture queer. Il reconnaît, bien sûr, qu'il est très facile de voir dans ces textes l'affirmation d'une stricte binarité sexe-genre et la défense d'un seul et unique ordre social hétérosexuel et reproductif, le contrat hétérosexuel. Cependant, un bon herméneute queer, il met les doigts dans les flous et les amène au premier plan. Ainsi, il insiste sur l'instabilité et la confusion qui règnent dans ses récits et qui laissent voir les coutures de ses injonctions sur le genre et la reproduction. Les tensions et les incohérences qui émaillent ces textes sont autant d'indices de leur contexte d'écriture et des intentions de leurs auteurs, mais aussi et surtout des difficultés que ces auteurs ont pu rencontrer pour faire tenir ensemble tout ce qu'ils voulaient affirmer sur les relations entre Dieu et l'humanité, et sur l'ordre social. Par exemple, dans le récit de la création de l'humanité au second chapitre de la Genèse, la différenciation sexuelle ne vient que dans un second temps. Mais si Adam, le premier humain, est désigné comme un homme, Ish en hébreu, seulement après la création d'une femme, Isha en hébreu, il reste assez clair qu'il y a une continuité entre Adam et Ish, l'homme post-création de la femme. Stone suggère qu'il y a ici une incohérence qui pourrait refléter deux choses. D'une part, ce serait l'expression d'une volonté patriarcale de donner aux hommes un statut privilégié dans la relation à Dieu. C'était d'abord l'homme, la femme est juste une compagne de l'homme. D'autre part, il s'agirait d'une tentative des auteurs pour éviter une potentielle interprétation homoérotique de la relation entre le premier homme et le dieu mâle qui est au début son seul compagnon au jardin d'Éden. C'est pourquoi on se retrouverait avec un premier homme non sexué, mais tout de même un homme et non pas une femme. On a donc bien, pour Stone, un récit qui vise à assurer un ordre sexué binaire et hétérosexuel, où l'une des deux parties prenantes du duo, la femme, est inférieure et soumise à l'autre, l'homme. Mais ce récit comporte une ambiguïté qui ouvre un espace interprétatif concurrent, espace interprétatif qui peut venir troubler l'établissement de cet ordre. Le premier humain est-il queer ? Est-il aussi une femme ? Auquel cas, il est impensable de dire que les hommes ont une relation privilégiée avec Dieu. La possibilité de perturbation du contrat hétérosexuel que viendrait imposer le récit de la Genèse peut d'ailleurs se poursuivre au troisième chapitre. Dans le troisième chapitre de la Genèse, Adam et Ève transgressent un interdit divin et se font vertement réprimander. Il semble alors que l'imposition du désir hétérosexuel de la femme soit une punition divine, au même titre que l'est la nécessité de l'accouchement dans la douleur et autre chose pénible de l'existence humaine. S'il fallait l'imposer, c'est bien que ce désir hétérosexuel n'allait pas de soi. Et s'il est décrit comme une punition, c'est que les auteurs de ce texte connaissaient bien les conséquences de la domination masculine sur la vie des femmes. Mais cela signifie en même temps que l'horizon eschatologique des femmes risque fort de ressembler au lesbianisme heureux, ou à un monde où les hommes ne peuvent plus compter sur une intervention divine pour se rendre désirable aux femmes. Montrer l'instabilité de ces récits, leur ambiguïté qui dévoile des structures de domination en train d'essayer de s'affirmer, on est en plein dans une herméneutique queer. Stone conclut son article en affirmant que le travail queer n'est pas de stabiliser une nouvelle interprétation officielle, mais seulement de montrer la fragilité et le caractère relatif des interprétations dominantes du fait du trouble qui habite le texte biblique en lui-même. Ce n'est pas cela qui fera disparaître l'hétéro-cis-sexisme religieux, mais cela constitue une partie des outils qui permettent d'en déstabiliser les fondements. Au Au-delà de la déstabilisation de l'ordre hétérosexuel, cisgenre et sexiste qu'exhalent les textes bibliques et que prennent au pied de la lettre leurs interprétations traditionnelles, une autre possibilité pour investir l'ensemble des écritures et en donner l'usage aux personnes queer est, tout simplement, de produire des commentaires et des prêches qui soient adressés à leurs expériences de marginalisation. En soi, ça n'est pas bien compliqué, puisqu'une partie conséquente de la Bible évoque des communautés opprimées en quête de liberté, des dominés qui ont raison des dominants, des marginaux qui se baladent dans tout le pays avec le Fils de Dieu, des malades, des pauvres, des étrangers, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça n'est pas bien compliqué, mais il y a du pain sur la planche dans un climat religieux où, entre autres, les papes semblent lancés dans un concours intergénérationnel d'homophobie où la moindre petite phrase qui n'est pas une insulte ouverte passe pour le summum du progressisme. Dans des structures aussi hiérarchisées que les églises, et plus particulièrement au sein de l'église catholique, prendre la parole est un pari risqué que certains et certaines font pourtant. Je ne pourrais pas vous mentionner toutes les initiatives existantes et toutes celles et ceux qui les font tenir. Mais je mentionne ici, à titre d'exemple, la trajectoire de vie et le travail de Michael Bernard Kelly. Kelly a longuement été professeur d'éducation religieuse dans un établissement catholique de l'église australienne, carrière qui s'est interrompue suite à son coming out gay en 1993. Suite à cela, il a consacré sa vie à prêcher et à écrire à destination des queers, laissant derrière lui quelques écrits de spiritualité, une série d'enseignements filmés et une thèse sur la mystique chrétienne et ses usages à destination de la spiritualité des hommes gays contemporains. Il est décédé en 2020. Ses commentaires de l'Exode, du motif du voyage au désert, du Cantique des Cantiques, des Témoins d'Emmaüs, de la femme qui parfume les pieds du Christ, etc., lui permettent d'aborder et de soutenir les parcours compliqués que sont les vies queer. La difficulté de l'acceptation de soi et du rapport au corps et à la sexualité lorsqu'on a été éduqué à la queerphobie, la lutte quotidienne qui accompagne le fait d'être out, l'importance de la communauté queer, du militantisme, du témoignage, etc. Pour reprendre la suggestion de Mona West, Kelly est l'un des Philippe qui rendent la Bible, toute la Bible, amicale au queer grâce à ses interprétations. Son herméneutique est résolument située. Elle est ouvertement le fruit de son parcours de queer au sein de l'Église catholique. Queeriser la Bible ne s'arrête pas à troubler ici et là ses interprétations et ses réceptions traditionnelles. Chris Greenough, dans Queer Theologies, montre comment une partie de la théologie queer sort des clous méthodologiques et formels de la théologie traditionnelle pour embrasser, je cite, « une approche permettant la réinvention complète des textes bibliques à travers des outils d'écriture créative ». Fin de citation. La théologie queer s'émancipe ainsi des cadres, des règles de l'autorité théologique traditionnelle, et elle le fait en produisant des écrits généralement déconsidérés car jugés de piètre qualité critique et littéraire. C'est un rapprochement personnel, mais il me semble que l'on peut comparer ces réécritures à ce que la pratique de la fanfiction permet aux queer en termes d'investissement et de subversion des canons narratifs hétérosexuels cisgenres, que ces canons soient littéraires ou audiovisuels. Peut-on dire que ces histoires sont de la théologie, au même titre que l'article de Ken Stone sur les interprétations de la Genèse est de la théologie? Ce qu'il faut noter ici, c'est que la théologie queer, ou du moins une partie de la théologie queer, ne bouscule pas seulement le contenu des interprétations de la Bible, elle conteste aussi l'autorité de la forme interprétative. L'auteur ou l'autrice de fanfiction biblique cheesy, en revendiquant participer au discours sur Dieu, met en exergue les outils formels imposés par les institutions traditionnelles. Un tel geste est queer en ce qu'il permet de constater que ces outils sont des artifices permettant de délimiter le champ du discours légitime sur Dieu et d'exclure celles et ceux qui ne se conforment pas aux règles de ce discours. Que cela soit volontairement ou parce que ces outils formels sont socialement situés. La monopolisation du discours sur Dieu par une élite intellectuelle qui partage les mêmes principes mérite d'être tout au moins remarquée. La pasteur Nancy Wilson, notamment, présente l'écriture créative comme une forme importante pour la théologie queer. Dans son ouvrage Our Tribe, elle affirme que la Bible ne doit pas être considérée comme un texte intouchable. Elle doit stimuler la réflexion et l'imagination. Elle explique ainsi
« Pour moi, la Bible est un ami souple, résilient, qui rebondit et même répond lorsque je l'interroge. La Bible appartient à tous celles et ceux qui l'aiment, jouent avec elle, en repoussent les limites, la touchent et sont touchés par elle, et il en va de même pour Dieu. »
C'est pourquoi elle propose de considérer que la Bible est pleine de queer, à chaque chapitre. Je cite « Elles ont suivi Moïse et Myriam pendant l'Exode, ont marché dans les pas de Jésus sur les bords de la mer de Galilée. » Fin de citation. Les queers étaient présentes dans les événements que raconte la Bible, même s'il n'en est pas question, même si elles ont été mises dans le placard de force par les auteurs et interprètes de ces textes. Et si les queers étaient déjà là, dit-elle, alors il faut enfin ouvrir les portes du placard et outer, libérer joyeusement qui l'on voudra. Les siècles de silence doivent être interrompus car ils sont injustes.
Il est grand temps de spéculer hardiment sur la Bible et sur la sexualité humaine tout autant que sur l'homosexualité.
Fini, pour elle, la recherche de rares miettes de queer à interpréter à la loupe. Les queers sont partout, il suffit d'être créatif et créative et d'en raconter les histoires. Et des histoires, il en vient de toutes sortes. Mais avant de vous donner deux de ces histoires en exemple, je voudrais revenir sur la citation de Cordova Caro, qui affirmait, lui, que queeriser la Bible ne consiste pas à transplanter des queers dans les écritures. Dans l'écriture créative, c'est précisément ce qui arrive. On a ici, à mon sens, non pas une incohérence fatale, mais la manifestation à la fois de la pluralité des formes que peut prendre la théologie queer, et des tensions et des discussions qui l'animent. Pour Cordova Caro, ce qui est important, c'est de se présenter comme une stratégie interprétative crédible et de se placer sur un pied d'égalité avec la théologie traditionnelle. On discute alors les méthodes interprétatives et le besoin de les bousculer pour dévoiler leur hétéronormativité contestable. Nancy Wilson et les personnes qui entendent queeriser la Bible en y faisant pousser des queers comme des champignons savent bien qu'elles sont en train de raconter des histoires. C'est précisément le but de la manœuvre. D'une certaine manière, Yael joue le même jeu que les hétéros qui cherchent à se reconnaître dans ces antiques récits et s'y projettent. Empêche-t-on les hétéros de le faire? Non. Queeriser, ici, consiste à perturber et investir les imaginaires bibliques contemporains. Cependant, il s'agit dans les deux cas d'une contestation d'ordre épistémologique. D'une part, la critique des méthodes interprétatives, et d'autre part, la critique des formes qu'elles peuvent prendre via la pratique de la fiction. Ceci étant posé, en avant pour les histoires. Dans la courte nouvelle « And then he kissed me », le pasteur James Martin raconte l'histoire de Joseph. Joseph est un jeune habitant de la ville d'Emmaüs, non loin de Jérusalem. Joseph est gay et sa mère n'apprécie pas, pour dire le moins. Quelques jours avant la Pâque de la crucifixion et de la résurrection, alors qu'il est au marché, Joseph croise le regard de Jésus. Et clairement, Joseph a un énorme crush sur le Christ. Ensemble, ils passent deux jours à se promener et à discuter paisiblement, et comme le titre l'indique, à se rouler de doux patins. Jésus insiste pour rencontrer la mère de Joseph et, miracle, oui, c'est un jeu de mots, miracle, pour la première fois, les choses se passent bien. Elle leur donne sa bénédiction. Vous anticipez certainement la suite de l'histoire. Jésus part pour Jérusalem et Joseph a le cœur brisé, même si Jésus lui a promis de revenir bientôt. Et il a encore plus le cœur brisé quand, quelques jours plus tard, il apprend que l'homme dont il est tombé amoureux a été crucifié. Mais il croise deux types qui lui racontent avoir dîné avec le Christ. Et évidemment, Jésus tient sa promesse. Il revient voir Joseph une dernière fois, l'embrasse, lui dit qu'il l'aime et part pour de bon. Le récit se termine sur ces quelques mots.
Je restai là quelques instants, étonné, puis ressentis en moi une paix que je n'avais encore jamais connue. En rentrant chez moi ce soir-là, je fus libéré. Toutes mes peurs, mes échecs, mes doutes, mes hontes, mes douleurs, le vide et la solitude me quittèrent. Sa résurrection était ma résurrection, vous voyez, parce qu'il m'aime.
L'auteur de cette histoire explique relater un très vieux récit circulant entre hommes gays et bi depuis les débuts du christianisme. Récit selon lequel le Christ était l'un d'entre eux, malgré l'insistance de la tradition chrétienne à faire de Jésus un hétérosexuel abstinent, la sexualité étant perçue comme un péché, et plus encore la sexualité entre personnes de même sexe. Ainsi, pour James Martin, dépasser cette crispation à l'égard de la sexualité passe également par la caractérisation du Christ comme étant, lui aussi, sexuellement actif. Si l'histoire qu'il propose n'est pas canon, elle n'en détourne pour autant pas le canon, pour reprendre le vocabulaire de la fanfiction. Il ne s'agit pas d'un univers alternatif, Jésus n'échappe pas à la crucifixion et ne décide pas de rester sur Terre avec Joseph. Martin exploite simplement les gigantesques fossés de la diégèse biblique pour ajouter un nouveau chapitre, beaucoup trop mignon, aux évangiles. Si James Martin a inventé un nouveau personnage, Roland Boer, quant à lui, dans Yahvé at the Top, A Lost Targum, fait le choix de l'écriture créative pour réécrire de fond en comble la rencontre entre Moïse et Yahvé. Boer suit, en partie, la trame biblique du livre de l'Exode. Dans les chapitres 24 et suivants, il est question de Moïse qui grimpe tout en haut d'une haute montagne, affronte les nuées et reçoit les consignes de Yahvé sur l'édification et la décoration de son sanctuaire, abondante en tissus somptueux, boiseries et dorures. Dans le récit de Boer, la rencontre entre Moïse et Yahvé est assez relaxe.
C'est une putain de grosse montagne que t'as là, Yahvé. Qu'est-ce que t'as contre la plaine ou une fourmilière à l'occasion ?
Faut bien épater les autres dieux, chérie. On peut pas se relâcher sur les apparences. Un thé ?
La suite du récit nous apprend que Moïse est plutôt séduit par Yahvé. Mais il n'a pas beaucoup le temps de s'y attarder car il est préoccupé à prendre en note la taille des ourlets des rideaux du futur temple. Puis, dans la chaleur écrasante du Sinaï, débarquent Freud, Lacan, Zachormazoc, Deleuze et Guattari. Tout ce beau monde reçoit à son tour sa tasse de thé avant d'entamer une discussion érudite sur le sadomasochisme, citation à l'appui. Le registre parodique de cette réécriture camp de la Bible est ce qui permet à l'auteur de se réapproprier le texte en le démystifiant. Il le transforme en rencontre outrageusement queer-codée, grivoise et comique par autodérision. En ce qui concerne plus précisément le recours à l'humour camp, la théologienne queer Elizabeth Stuart, dans son article « Camping Around the Canon », rappelle que les écritures hébraïques et chrétiennes ont des aspects comiques bien étudiés. Elle explique qu'il existe une tradition théologique de longue date, mais minoritaire, qui considère le rire comme faisant partie de la relation humaine au divin. Pourtant, remarque-t-elle, l'humour et le rire sont rarement utilisés comme outils herméneutiques. Le comique du camp fait partie de la culture queer, ajoute-t-elle. Aussi, les queers sont-ils particulièrement bien placés pour développer ces outils laissés de côté au profit d'une lecture seulement tragique de la Bible. Il ne s'agit donc pas de se moquer des textes pour les dévaluer, les insulter ou les salir, mais d'en tirer du sens à travers le jeu et le rire. L'irrévérence de la parodie vient briser la toute-puissance des lectures dominantes et contester l'autorité des oppresseurs. À toutes fins utiles et avant de récapituler ce que nous venons de voir dans cette vidéo, je me permets de signaler aux professionnels de l'édition que le corpus de la théologie queer, majoritairement anglophone, n'a connu presque aucune traduction en français. Je suis moi-même disponible pour tous travaux de traduction d'articles, d'ouvrages complets ou pour tout projet d'édition de recueil de textes. Je signale aussi aux diverses associations et congrégations, si vous souhaitez découvrir et réfléchir sur la théologie queer collectivement et avec une intervenante, sachez que je réalise, sur mesure et sur devis, des ateliers et des conférences. Enfin, toutes ces vidéos sont sous licence Creative Commons, vous pouvez les diffuser comme bon vous semble. Vous l'aurez donc compris, une partie de la théologie queer s'intéresse principalement aux queers au sens où le terme désigne un ensemble de minorités relativement bien définies, les minorités de sexe, de genre et de sexualité. Il s'agit alors, on l'a vu, de désamorcer les textes bibliques les plus hostiles, de se mettre en quête d'ancêtres queer dans les écritures, d'investir la Bible tout entière pour montrer comment l'ordre hétérosexuel établi n'est pas si bien établi que cela, d'accompagner spirituellement les personnes queer face à ces textes, et enfin, de transgresser les usages interprétatifs en étant créatifs et créatives, et en faisant proliférer les queers bibliques comme des champignons. Dans la prochaine vidéo, ça va queeriser encore plus fort. En suivant la thèse de certains théologiens et certaines théologiennes queer, on se demandera si la théologie et le christianisme ne sont pas, eux-mêmes, toujours déjà traversés par des dynamiques queer, si ce n'est queer de la tête aux pieds. En attendant, vous pouvez me suivre sur Twitter et Mastodon, consulter la bibliographie ou encore soutenir l'activité de la chaîne via les plateformes de dons. Tous les liens sont à retrouver en barre d'infos. On se retrouve très vite pour la suite.